Cinérama.
Cette nuit, notre plastron émetteur a été saboté.
Bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Espèce de sac à foutre.
Je t'aime.
Tu vas rôter du sang.
Cinérama.
Défense de rire et défense de pleurer.
Moi, ce qui me fait chier, c'est les effets spéciaux minables. Je suis porté.
Je suis ton père.
Un très beau film.
Ça fait toujours plaisir à entendre.
On n'est rien à foutre, mais c'est un très beau film.
Je dois reconnaître que vous affirmez des choses plutôt incroyables et qui devraient être vérifiées.
Cinérama.
Bon, en piste les louloutes.
Actualité cinéma et tout le reste sur Divergence FM.
Bonjour, c'est Cinérama, effectivement, émission de cinéma, émission hebdomadaire qui démarre sur les chapeaux de roue. Tout d'abord, un grand merci à la TAM. qui réalise des transports en commun vraiment fabuleux. Hein, ouverture des quatre lignes et malgré tout un tramway de plus en plus lent. Bravo la TAM. Voilà, c'est pour ça qu'on va démarrer un peu. Enfin, moi, je suis un peu fébrile hein, sur ce début d'émission.
Émission sociale.
Mais bonjour Marine.
Bonjour à tous.
Bonjour Manu.
Bonjour.
Et puis bonjour à nos invités, Olga et Louise.
Bonjour.
Bonjour.
Alors Marine, eh bien, toi, c'est toi qui as le plus gros sommaire. Hein,
oui, je m'en rattrape de mon émission de Feignasse de la semaine dernière. Donc là, j'ai pas moins de 4 films. Je vais parler de Weekend, un film anglais extrêmement bon, qui est un peu mon coup de cœur de ces deux dernières semaines. Et je vais parler de 3 films allemands qui sortent très prochainement ou aujourd'hui. Et par rapport à Weekend, ça sera l'occasion de faire un petit blind test gay.
Eh oui, enfin, blind test, oui, enfin, oui, si on peut le dire comme ça, si on veut. Pourquoi pas? Et toi, Manu?
Je vais vous parler donc de La Sorcière Sanglante, qui passe donc demain dans le cadre de l'Absurde Séance, en collaboration avec un éditeur DVD du coin, Artus, et puis du film de Francis Ford Coppola, Twixt.
Et puis nous parlerons donc avec les membres de l'association ALBA, des rencontres de l'Amérique latine, c'est ça?
Oui.
C'est bien ça. Et qui ont débuté et qui se poursuivent. Et c'est pour ça qu'on vous reçoit. Donc on parlera des 3-4 films qui vont être projetés. Mais ça, ce sera un peu plus tard dans l'émission. Pour l'instant, on commence avec le prénom.
Cinérama.
Bon, est-ce que de voir ce film, ça vaut le coup de se prendre une méga prune, fourrière et compagnie?
Sur Divergence FM.
Carnage de police, sorti en décembre, était une adaptation d'une pièce de Yasmina Reza qui avait connu un grand succès. Et quand ça fonctionne au théâtre, on peut espérer que ça fonctionne aussi au cinéma. Le pari n'a peut-être pas été tenu par Polanski, mais si on prend d'autres exemples comme Le Père Noël est une ordure qui est diffusé à la télévision un Noël sur deux, Cuisine et dépendance d'après Bakri Jaoui ou Le Dîner de cons qui avait occasionné des messageries de portables étranges autour de François Pignon. Si, si, rappelez-vous.
Vous êtes bien chez François Pignon, mais il n'est pas là pour l'instant. Laissez un message après le bipi, vous rappellera le nom d'une pipe. C'est à vous de parler.
Oui, c'était très très drôle à l'époque. Avec ces quelques exemples, on peut penser qu'une adaptation bien réussie, eh bien c'est bingo. Parce qu'on aura beau calculer dans tous les sens, mais 5 semaines d'exploitation en salle à raison de 4 ou 5 séances par jour vaut largement un an de tournée dans tous les théâtres de France, surtout eh bien, qu'il faut faire manger les acteurs tous les soirs, les faire boire, nourrir aussi les techniciens et choisir quelqu'un pour conduire le minibus. Mais faut-il pour autant adapter les pièces qui font le bonheur des spectateurs et des théâtres privés? Avec Le Prénom, pièce de boulevard, comme on dit, d'Alexandre de la Patellière et Mathieu Delaporte, c'est ce chemin-là qui est suivi, celui d'un théâtre qui s'adapte au cinéma sans trop de peine pour faire une bonne comédie, mais pas forcément du bon cinéma, c'est-à-dire, à peu de choses près, du théâtre filmé. L'essentiel de l'intrigue du film se déroule dans un appartement de Bobo, dont on ne quittera jamais le salon, sauf à la fin et au début du film, où l'on nous présente les personnages tout en roulant dans Paris à destination de cet appartement du 9e arrondissement. Une présentation à la Amélie Poulain où la poésie teintée de nostalgie est troquée contre l'humour noir. Mais l'essentiel, c'est d'arriver dans cet appartement où se rend Vincent, invité à dîner chez Elisabeth et Pierre, sa sœur et son beau-frère. Il y retrouve Claude, un ami d'enfance.
Salut la culte. Ça va ?
Ouais.
Cheval blanc 85. Ah vache, merci.
De rien, cadeau d'un client. Tu nous la mets en carafe.
Ah oui.
Ah bah j'avais oublié que c'était une soirée déguisée.
J'avais oublié que t'étais si drôle.
Ah, tu peux mettre un torchon sur le bras, tu pourrais faire le service. Elle est où la grosse?
À la cuisine.
Elle nous a pas refait son buffet marocain là. Non.
Tu sais où sont les carafes?
Au même endroit depuis 10 ans.
Ah!
Cheval blanc 85, la vache!
Cadeau d'un client.
Les enfants?
Couchés.
20h14, c'est vrai qu'on est samedi?
Alors une bonne ambiance, hein, ça vanne gentiment, mais c'est pas tout de s'amuser en mangeant des pistaches. En attendant la cinquième personne, qui est la jeune femme de Vincent, enceinte depuis quelques mois, une question intrigue. Quel est le prénom choisi par le couple ?
Alors, est-ce que vous avez des idées de prénoms ?
On en a même une assez précise.
On peut savoir ?
Alors devinez.
Faut chercher ses références, ses goûts, ce qu'il aime.
C'est con que Rolex ne soit pas un prénom.
Bartholomé ?
Non.
Balthazar ?
Non.
Bah donne-nous un indice.
Non.
Allez, sois chouette, Vincent, un indice.
Non.
Antoine ?
Plus original.
Albator ?
Tu sors.
Alors c'est quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Très drôle ! Bon allez, sans déconner, c'est quoi ?
Eh oui, on l'a compris une fois, ce fameux prénom révélé, c'est la crise. Tout va y passer pour tenter de dissuader le couple de baptiser ainsi leur enfant. Argument sociopolitique, économique, historique et même philosophique, hein, puisqu'on viendra à parler de Kant, de sa métaphysique des mœurs et de son impératif catégorique, c'est dire la portée des débats. Mais tout cela est fait finalement avec une pointe de mauvaise foi et d'agacement par des personnages caricaturaux. Il y a tout d'abord Vincent qui apporte la peste dans ce dîner, un type à la réussite insolente et aux allures bling-bling, interprété par le flambeur Patrick Bruel, qui n'a aucun mal à rentrer dans le personnage. Tiens donc, il faisait partie de ces gens qui ne voulaient pas se faire taxer par le candidat Hollande. Il y a l'ami d'enfance, un tromboniste dans l'orchestre de Radio France, qui passe pour la neutralité précision suisse, qui observe donc les débats plutôt qu'il ne les anime. Et puis il y a le couple d'enseignants qui reçoit. Elle exerce dans le secondaire, est dévouée à la cuisine et aux enfants, elle arrondit les angles. Lui exerce à l'université, volontiers donneur de leçons et tatillon, et quand vient l'heure de parer les coups, eh bien sa femme a du mal quand même à lui venir en aide.
Oh mais arrêtez avec ça ! Mais Pierre n'est pas du tout un gros radin.
Non, il est pingre, chiche, avare, ayant un problème avec l'argent.
Toi, tu serais généreux et moi, je serais radin, c'est ça ? Tu serais généreux parce que t'as offert un iPod à Myrtille pour ses 4 ans ? Excuse-moi de ne pas avoir ton fric !
Ah, c'est sûr que les morceaux de bois, ça n'a pas dû te ruiner.
C'était un mi-cadeau, connard !
Mais t'aurais mon fric, ça serait pareil.
Parce que je pourris pas les enfants, moi ?
Parce que tu peux pas dépenser un sou sans t'y reprendre à 10 fois. Parce qu'il faut voir comment tu tiens ton porte-monnaie, ton petit porte-monnaie. T'es tellement agrippé à lui, chaque fois que tu sors une pièce, on a l'impression que t'arraches un clou. T'es une pince, Pierre !
La pince est heureuse de t'avoir invité.
C'est ta femme qui nous a invités.
Mais Pierre n'est pas du tout une pince. C'est même quelqu'un de... Je trouve pas le mot, mais...
Ouais. Il finira pas à trouver un adjectif. Hein. Alors évidemment, les personnages sont assez marqués. Parmi les grandes gueules, l'un est de droite, plein aux as et vaguement inculte. Mais est-il pour autant individualiste et égoïste ? L'autre est intellectuel de gauche, mais est-ce chez lui qu'on retrouve la générosité ? Eh bien non, c'est ce genre d'élément qui fait traîner le film. Je n'ai pas parlé de la femme de Vincent, qui arrivera plus tard dans le dîner et qui en remettra une couche, puisque la comédie a besoin de rythme et de rebondissement. Et au théâtre, il est bon de ménager ses entrées et sorties de scène. Alors d'un point de vue cinématographique, on n'a rien à se mettre sous la dent, c'est même quand le duo de réalisateurs nous emmène dans un flashback, exercice délicat au théâtre, hein, il faut bien l'avouer, que le rythme marque le pas. C'est une fausse séquence émotion qui est tellement en rupture avec les dialogues percutants des scènes précédentes qu'on a l'impression que le projectionniste a changé la bobine. Enfin, maintenant, le disque dur. Hormis cette petite faute, le prénom réussit à faire rire la salle. Les acteurs qui ont déjà joué le rôle une centaine de fois dans la pièce s'en tirent forcément très bien. Même Charles Berling, l'intellectuel donneur de leçons, qui est le seul à avoir récupéré le rôle. C'est donc le seul qui a vraiment travaillé, les autres n'ayant eu qu'à peaufiner. Donc, le prénom sort aujourd'hui sur les écrans. Vous pouvez le voir au cinéma, notamment Gaumont. Il était en avant-première hier.
Cinérama sur Divergence FM.
Et nous passons maintenant aux rencontres d'Amérique latine avec nos invités. Alors, bonjour, rebonjour Olga, rebonjour Luis. Vous faites partie du collectif Alba. Alors, il faut bien penser à parler tout près des micros hein, pour bien qu'on vous entende. Vous faites partie donc du collectif Alba. En deux mots, eh bien, que fait ce collectif ?
Et le collectif Alba Amérique latine est une association qui réunit plusieurs associations qui travaillent avec les pays de l'Amérique latine. L'objectif est d'informer la population de Montpellier et de la région sur la situation des pays latino-américains, mais surtout parler des grandes transformations qui sont en cours dans un certain nombre de pays en Amérique latine. Et puis aussi faire des actions de solidarité avec des pays. Par exemple, on a fait des actions pour Haïti, pour les Chili après les tremblements de terre, etc.
Alors donc, bien c'est pour ça que vous organisez donc ces rencontres cinématographiques, parce que finalement, là, vous avez choisi des films qui rendent compte d'une situation sociale et politique de certains pays, notamment le Mexique, il y a l'Uruguay. Et il y avait le Brésil, aussi. Ouais. Voilà.
Brésil et le Venezuela aussi.
Et le Venezuela. Alors, par quel film on commence ? Alors, évidemment, on peut commencer. Il en reste trois, je crois. Hein, c'est ça ?
Oui, ce soir, il y a un film.
À 18h.
Suivi d'un débat à 18h au cinéma Diagonal. C'est un film qui s'appelle Rêve volé, Sueños robados. C'est un film qui parle de la prostitution de jeunes filles à Rio. Dans un contexte des situations économiques des classes populaires encore en difficulté. C'est des filles qui viennent des favelas, c'est-à-dire les quartiers marginaux de Rio, et qui sont obligées de se prostituer à cause des difficultés économiques et sociales pour trouver du travail, avoir une éducation qui va au-delà de l'école primaire. Donc, c'est un film très beau qui traite la question de la prostitution de jeunes filles pas d'une façon misérabiliste, mais si misée.
Misérabiliste.
Voilà,
on avait compris.
Donc, mais avec rigueur et objectivité, je pense que on aura un débat après ces films. C'est une très grande actualité parce que vous savez que le Brésil prépare Rio, surtout les championnats du monde de football en 2014, et puis les Jeux Olympiques en 2016. Donc Rio est en train de passer une période de transformation très très importante du point de vue infrastructure, mais aussi il y a une remise en question de toute l'organisation urbaine, les beaux quartiers qui sont liés aux grandes plages comme Copacabana, Ipanema, mais d'un autre côté derrière les grandes favelas, donc ça pose des problèmes.
Et puis c'est un grand pays avec une forte croissance économique, mais malheureusement des écarts entre les plus riches et les plus pauvres qui continue de se creuser. Donc voilà, là ça reste, je dirais que le sujet du film s'accordera un peu avec l'image qu'on a quand même de ce grand pays. Mais voilà, après il en sera question dans le débat, j'imagine.
Oui, complètement. L'année dernière, nous avons présenté un documentaire fait sur les favelas. Et déjà, nous avons déjà vu un aperçu de ces problèmes sociaux que sont là. Que la prostitution des dames aussi.
Juste si vous permettez, oui. Deux secondes. Pour nous, c'est un film important, c'est-à-dire parler du Brésil, parce qu'il y a un contexte qui est un processus de changement. Le Brésil, c'est un grand pays, probablement le pays le plus important de l'Amérique latine, du point de vue superficie, mais aussi du point de vue économique. Mais là, il y a toute une question de fond qui est en train de se poser, c'est-à-dire vers quel modèle de développement on avance. Est-ce qu'on va continuer vers un modèle à l'occidental avec des classes, des élites économiques qui profitent uniquement à un petit groupe économique, ou on va vers un modèle socio-économique qui va bénéficier à la population tout entière. Donc voilà, c'est les grands défis qui est actuellement le Brésil et l'Amérique latine. En fait.
Donc ça, c'est des discussions que vous aurez après les films. Là, on va essayer de se cantonner au cinéma. Alors, on passe au film mexicain. Alors lui, il sera projeté du mercredi 2 au mardi 8 mai au cinéma Diagonal, c'est bien ça ?
Tout à fait.
C'est Miss Bala. Alors là aussi, c'est quand même une image du Mexique qui est renvoyée largement par les médias, c'est-à-dire les rapts, voilà. Sur fond de drogue. Alors oui, on peut peut-être en parler un tout petit peu.
Parce que le sujet, c'est une mise que est repéré, parce qu'ils sont tout de suite repérés pour les narcotrafiquants, mm-hmm. pour toutes les mafias du coin. Et là, on va toucher tous ces problèmes aussi avec les disparitions dans la frontière de Juarez, que nous avons déjà vu plusieurs reprises dans des documentaires. Donc, donc c'est un film assez intéressant de ce point de vue. Il était présenté déjà dans plusieurs festivals latino-américains et nous le présentons maintenant à Montpellier. D'ailleurs, c'est un de notre but. Nous poursuivons faire connaître beaucoup plus le cinéma latino-américain à Montpellier.
Alors après, bon, force. Alors moi, je ne connaissais pas le réalisateur. Il y a des réalisateurs quand même mexicains qui sont connus. Il y en a même qui ont très bien fonctionné, comme Alfonso Cuarón, mais qui ne parlent pas forcément de leur pays. Là, on reste dans le Mexique. Voilà.
Oui. Alors, oui. C'est des cinémas qui sont vraiment d'analyse, hein, oui. dans le sens où on dépasse les clichés, là, hein. C'est-à-dire souvent on entend ici le Mexique, ah c'est les rapts, c'est les assassinats. Le Mexique c'est beaucoup plus que ça, c'est un pays incroyable d'une diversité culturelle extraordinaire. Donc et c'est évidemment on va traiter cette question là qui est de la question violence, hein. Mais de là il faut dépasser ces carcans des clichés.
Évidemment. Donc, on passe ensuite au jeudi 3 mai avec un film, Impunity, qui sort aujourd'hui, je crois.
Non, c'est les.
La semaine prochaine.
Bon, ça va être projeté avant,
en
mais
et
on va avoir une séance débat les 3 mai.
Donc, c'est un film colombien. Alors là, film autour de la milice. Voilà, milice paramilitaire pilotée plus ou moins par les instances économiques et politiques qui décapitait des têtes, voilà, pour faire peur à la population et faire, grosso modo, contrer les FARC, hein, c'est ça. Qui sont les plus méchants finalement? C'est parce que ça. Hein.
Oui, la question de la Colombie est une question clé en Amérique latine et en Amérique du Sud surtout. Ça fait une cinquantaine d'années que la Colombie est sous une espèce de guerre civile. Et depuis l'apparition des FARC, qui sont les forces révolutionnaires colombiennes, qui ont... se sont implantés dans une partie du territoire colombien. Il y a un conflit armé entre l'armée, l'État et la guérilla colombienne. Et donc, les gouvernements, les deux, trois derniers gouvernements ont promu le développement des forces paramilitaires à l'intérieur de la Colombie, qui ont fait des massacres dans des villages entiers pour contrer soi-disant le narcotrafic, mais c'était pour contrer la guérilla colombienne. Et là, ça a provoqué des violences inouïes, avec plus de 50 000 morts depuis l'apparition de ces paramilitaires en Colombie. Donc, et là, à nouveau, on se situe à ce niveau-là de dire quel type de société on souhaite. La Colombie est très alliée avec les États-Unis. Bon, dernièrement, il y a quelques changements, mais les derniers gouvernements très alliés avec les États-Unis qui ont appuyé la formation de ces groupes paramilitaires.
Alors merci Louis, on va devoir
accélérer.
Oui, accélérer et même clôturer, j'en suis désolé parce que il va falloir faire parler Marine qui a beaucoup travaillé aujourd'hui. Donc on termine par la séance du vendredi 4 mai, hein. Alors on l'évoque juste et puis après on renverra les auditeurs vers votre site internet, hein, pour prendre toutes les informations. Ce sera un film vénézuélien cette fois-ci, Miranda Regresa, et puis on précise qu'il y a une exposition photo Regard Amérique Latine qui a lieu dans la mezzanine du Diagonal. Voilà. Alors, on est désolé. Si vous voulez, vous restez avec nous, en revanche, hein, pour écouter les chroniques qui suivent.
Oui,
et puis, donner l'adresse du site, hein, pour trouver toutes les infos sur ces rencontres d'Amérique latine.
Notre site est en construction, comme on dit.
Donc, il faut aller sur le site Diagonal.
Oui, vous pouvez aller sur le cinéma Diagonal et vous allez trouver toutes ces infos.
Eh bien, merci.
Merci à vous.
Merci à vous.
Extrait de la bande originale Boulevard de la Mort de Coasters. Vous êtes toujours dans Cinérama.
De toute façon, ce film est une catastrophe.
Cinérama.
Connerie, 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 je vous dis. Et même saloperie. Hein.
Sur Divergence FM.
Et on passe tout de suite à Weekend de Andrew Haight, à ne pas confondre surtout avec le Weekend de Godard de 67 avec Mireille d'Arc. Russell, jeune gay de Nottingham qui ne s'assume que moyennement, rencontre Glenn dans un bar. Après une nuit passée ensemble, le réveil se fait avec la gueule de bois. Glenn ne jure que par les coups d'un soir et surtout, il doit quitter définitivement le pays à la fin du week-end. D'une rencontre vont jaillir les prémices fragiles d'une histoire d'amour dessinée en forme de compte à rebours.
What kind of stuff is it you want me to say?
Anything you like. Just talk about last night. You know, what happened, what you wanted to happen.
It's for an art project.
Yeah.
And people can listen to it.
If you make the grade, yeah.
Okay. I saw you in the club and I thought you were out of my league or whatever. And yeah, we came back here, didn't we? And then you kissed me. Like you said, you took my shirt off. I just thought that we were having a really nice time. So, sorry Glenn, if I don't make your grade.
Ce film, au budget minime, tourné dans l'urgence, pourrait être apparenté aux productions indépendantes américaines, mais appartient en fait au cinéma social anglais, un cinéma dont on aurait pu oublier, à force de désertion des Ken Loach et autres Stephen Frears, à quel point il sait être militant. C'est un grand petit film de ceux qui sans doute n'intéresseront jamais personne d'autre que les gens concernés par son sujet, mais qui sait pourtant dire des choses universelles en passant par la voix d'une minorité. Ce film ne met jamais d'eau dans son vin et c'est tant mieux. Il tient un discours tout aussi cru que romantique et s'il nous semble si réaliste, c'est sans doute parce qu'il parvient avec modestie à parler de sentiments entre deux scènes de sexe sans fioriture. Le réalisateur a eu bien raison de ne pas édulcorer cette relation, quitte à perdre en route quelques spectateurs décontenancés par le manque de rebondissements. Weekend est volubile, sans être bavard, percutant, mais jamais gratuit, garanti au bout du compte d'une belle radicalité. Si le film n'affiche aucune revendication, il porte pourtant très haut l'étendard de la tolérance, en traitant ses personnages de manière volontairement banale, au lieu de les ostraciser, en les définissant avant tout par leur humanité et non par leur préférence sexuelle. On devrait d'ailleurs juger extrêmement injuste que le film pâtisse d'un avertissement pour des images et des propos soi-disant choquants, alors que pour être honnête, le même film traitant d'un couple hétéro n'aurait jamais fait l'objet d'un tel avertissement. Weekend, c'est un peu l'anti-les infidèles. Oui, je sais, je bloque un peu sur ce film. Une démarche cinématographique intègre à l'opposé d'un gros coup marketing. D'un côté, l'introspection sincère d'un couple homo, de l'autre, les mesquineries des couples hétéros. Pour l'un, la réflexion, pour l'autre, les blagues creuses. Mais pour l'un, 50 000 entrées, pour l'autre, 2,5 millions. Comme quoi, de toute façon, les spectateurs ne sont pas prêts à virer de bord pour ce qui est de leur mauvais goût. Weekend prend à revers la représentation des gays dans le cinéma actuel. En effet, si les productions américaines intègrent de plus en plus de personnages homo dans leur scénario, ce n'est pas par souci des quotas, mais surtout pour faire rire avec des stéréotypes de folles efféminées ou de gays prédateurs qui ne veulent qu'une chose, faire basculer les gentils héros hétéros du côté obscur. Si le cinéma français a longtemps ri des gays, mais surtout du travestissement, que ce soit avec La Cage aux Folles ou plus récemment Chouchou, il aborde depuis une dizaine d'années le sujet de façon plus naturaliste, avec des cinéastes tels que François Ozon ou Christophe Honoré. Mais ne croyez pas pour autant que le cinéma gay est sorti du placard depuis peu. Sachez qu'en 1895 déjà, William K. L. Dixon, un des tout premiers réalisateurs, surtout étudié en fac de cinéma pour ses très courts métrages montrant des sportifs en pleine action, eh bien William K. L. Dixon a réalisé The Gay Brother, autrement dit le frère gay, ainsi que The Cockfight, que l'on peut traduire par combat de bites. Et tout cela avant 1900, eh oui. Néanmoins, ces pépites de la préhistoire cinématographique feront figure d'exception, car la thématique de l'homosexualité ne sera plus abordée avant les années 60, période de la libération des mœurs. S'en suivront plusieurs courants. Les cinéastes homo feront des films pour le public homo ou réaliseront des films militants avant que l'esthétique de l'homosexualité féminine ne soit récupérée par le cinéma hollywoodien, trop content de trouver un nouveau créneau de fantasmes bon marché. Et c'est l'occasion d'ailleurs de passer au quiz spécial gay. Alors, j'ai pas vraiment voulu m'orienter vers la comédie. J'ai voulu éviter tout ce qui était Cage aux Folles, les trucs un petit peu clichés. C'est parti pour le quiz. Cuir moustache. à taper ça sur Google et vous tomberez sur un extrait de film avec Al Pacino qui s'appelle Cruising, où il va dans les années 80 explorer les bas-fonds des milieux gays. Enfin bref, voilà, c'était uniquement pour introduire ce quiz. On commence avec le premier extrait.
J'ai jamais été capable de supporter mon père. Ça n'a pas changé. Le monde pense qu'avec le temps, on se met à aimer nos parents, puis que tout s'arrange. Mais ça va faire 10 ans qu'on ne s'est pas parlé.
Moi, c'est avec ma mère, là, on est complètement incompatibles. On n'a rien en commun. Rien.
Merci.
Merci.
La mère d'un fils ne sera jamais son amie. Cocteau.
Ton père et ta mère, tu aimeras? Dieu.
T'es catholique, toi?
Ben, je crois qu'il y a quelque chose. Je crois qu'il y a quelqu'un. Mais je sais pas si c'est Dieu, si c'est Bouddha, si c'est... je sais pas. Ce que je sais, c'est qu'il s'est trompé de mère pour moi, par exemple.
Ah, vous aviez la moitié de la réponse,
ouais,
apparemment.
J'ai le réalisateur, parce qu'on l'entend, en plus, c'est réalisateur-acteur, jeune.
Eh bien, c'était... c'est le plus jeune coming out cinématographique, finalement, puisque Xavier Dolan a fait ce film, J'ai tué ma mère, quand il avait 19 ans. Et d'ailleurs, après, il a continué sur les mêmes thématiques avec ses deux films suivants, dont le prochain passe à Cannes.
Qu'est-ce que tu fais? La guerre est repassée. Mon oncle est pas mort, finalement. La guerre veut qu'on redescende.
Et qu'on ramène les moutons en plein mois d'août.
Il a dit qu'ils ont annoncé une tempête. Elle nous arrive du Pacifique. Elle sera pire que celle-ci.
Mais la neige, elle a pas tenu plus d'une heure. Hein? Et en plus, ce salopard, il va nous déduire au moins un mois de paye. Et ça, c'est pas juste.
Tu sais, je peux te prêter un peu d'argent si ça te rend service. Je te donnerai ça à Signal.
J'ai pas besoin de ton pognon, d'accord? Je suis pas encore à l'hospice.
Chier. D'accord.
Je précise qu'il s'agit d'un blind test consacré à l'homosexualité masculine uniquement.
Eh oui.
Vincent, tu as trouvé.
Oui, Brokeback Mountain, que j'ai pas vu d'ailleurs.
Oui,
mais
voilà,
c'est ça. C'est, écoutez,
histoire
j'ai senti
de cow-boy, avec des moutons.
Voilà, avec l'ambiance sonore très présente.
Qui a marqué d'ailleurs un grand tournant, en fait, parce que ça a été vraiment un des premiers blockbusters, parce que ça appartient plutôt à cette catégorie, à parler comme ça d'un couple gay. Nouvel extrait.
Je croyais que tu consultais à l'hôpital.
Ça dépend des patients, il y en a que je préfère voir ici. Plus confortable, plus protégé. Les gens adorent le luxe quand ils sont malades. Un signe extérieur qui les rassure.
Tout le monde vit dans le mensonge, t'es bien placé pour le savoir.
Ça commence bien. Tu me traites de menteur.
Ben, tu mens à tout le monde. Je sais même pas si tu t'en rends compte, d'ailleurs, t'es trop lâche pour ça.
Tu me traites de lâche maintenant.
Si t'avais un peu de courage, tu dirais la vérité à Sarah.
Ne mêle pas de ça, Adrien.
Ou alors. Si ça peut te soulager, annonce-lui toi-même. Vas-y, dénonce-moi.
Tu me reproches quoi exactement d'avoir couché avec Manu?
Ce que t'as fait, ça n'a pas de nom.
Si, ça a un nom. J'ai réussi là où t'as échoué, c'est tout, c'est la vie.
Non, c'est pas la vie, c'est ta vie à toi, mais une petite vie merdique avec un plan de réussite. Mais ça te conduit où tout ça? À niquer tout le monde? Tu respectes rien. T'as épousé Sarah parce qu'elle vient d'un milieu friqué. Tu couches avec des mecs et tu craches sur les PD. Elle te sert qu'à ça. À trahir ta femme, tes amis.
Moi, je fais respecter la loi, mais je donne des leçons à personne. Toi, t'as pas à me juger.
Ouais, pas évident, c'est celui-ci. C'était.
Pas le film de Téchiné.
Oui, bien, Manu. Et c'était Les Témoins. Donc, ça a parlé
les
de.
Les Témoins. Ouais.
Voilà, Les Témoins. L'émergence du sida dans les années 80 avec Samy Bouajila, Emmanuel Béart et Michel Blanc.
Olga et Louis, hein, vous pouvez jouer avec nous. Hein, si
ah oui, c'est un peu le but.
Films, hein, évidemment.
La voilà. Qui c'est celle-là? Notre nouvelle directrice de campagne. Elle s'est portée volontaire il y a une semaine et je lui ai demandé de m'aider.
De t'aider ou de prendre les commandes? Où est passé Scott?
Il nous faut du sang neuf. Messieurs, Anne Cronenberg, une femme. Une femme qui aime les femmes. C'est bizarre, non?
Salut les gars. Monsieur Mee, Rick Stocks ne se retire pas de la course. Il se présente officiellement contre vous. Et mes amis de The Advocate disent que David Goodstein le soutient activement.
Ça fait un candidat gay contre un candidat gay, c'est...
C'est dommage.
J'attends de voir ce qu'ils vont annoncer.
Mmh. Alors tu as remplacé Scott par une lesbienne.
Anne a travaillé sur une campagne pour le recyclage. C'est une femme très très organisée.
Oui, mais
on a besoin de ça.
Mais qui te dit que c'est pas une taupe de Rick Stokes?
Ne me dites pas que vous êtes toujours aussi paranoïaque.
Si. On tient beaucoup de Harvey.
Tu n'as pas un peu de blanchisserie en retard, Michael?
Et toi, tu devais pas aller à une convention de coiffeur?
Oh! Monsieur, ma petite amie prétend que vous n'aimez pas les femmes. Dites-moi ce qu'il en est. Est-ce qu'il y a une place pour nous dans l'équipe ou est-ce que vous avez tous peur?
Alors, on a trouvé, hein?
Bah oui, facile.
Harvey Milk.
Voilà, et d'ailleurs, Sean Penn a gagné un Oscar pour ce rôle, et pareil, ça a été une grande avancée, parce qu'en fait, c'était, comme il le dit lui-même, la première fois qu'un personnage gay dans un film ne s'excusait pas de l'être. Alors là, pour le dernier extrait, bon là, par contre, c'est un petit peu moins sérieux. Hein.
On vient d'emménager dans une nouvelle maison.
Elle est belle.
Oui, elle est belle. Il me faudrait une lampe torche. Emma, t'entends? Il est la musique. Je vois des hommes. Ils essayent de me mater quand je suis à poil.
Vous travaillez dans quel domaine?
Les chantiers.
Donc vous ne fréquentez que des hommes?
Ah oui, mais.
Lorsqu'on refoule certains désirs, il arrive que ça se traduise par des visions.
Emma, ma chérie, c'est papa!
Ah, ça pique quand je traverse pas!
T'as failli tuer mon père.
Ma femme s'est barrée.
Je fais quoi?
Vous avez des fantasmes homosexuels. Assumez-vous, passez à l'acte.
Hey, oh là là, on peut parler avant, tu fais quoi?
Je suis actif.
Ouais, mais dans quoi?
Dans n'importe qui, ça dépend.
Waouh.
Bruno était déchaîné, il a crié le titre du film. Oui, en effet, c'était Poltergeist, un film avec Clovis Cornillac, dont il ne doit pas trop se vanter, à mon avis, alors qu'il est là, dans cette période où Radio Star sort sur les écrans. Voilà, et puis bon, bah, après, il y avait plein d'autres excellents films dont je n'ai pas parlé, comme par exemple The Bubble, qui parle d'un couple gay en plein Tel Aviv. Gus Van Sant, bien sûr, qu'on a énormément parlé, en particulier avec My Private Idaho, avec Keanu Reeves et River Phoenix. Et évidemment, Almodovar qui, en fait, aborde l'homosexualité masculine dans pratiquement tous ses films, mais plus particulièrement dans La loi du désir avec Antonio Banderas et dans La mauvaise éducation plus récemment. Voilà.
Eh bien, merci pour ce petit jeu où on a quasiment fait carton plein. Hein.
Incroyable.
Ouais. Qui êtes-vous?
Cinérama.
J'ai pas très bien saisi.
Sur Divergence FM.
Et on passe donc à l'absurde séance qui aura donc lieu demain à 20h30 au cinéma Utopia avec un film que j'aime particulièrement, La sorcière sanglante, un film italien de Antonio Margheriti de 1964. À la fin du XVe siècle, Adèle Karnstein est condamnée au bûcher, accusée de sorcellerie et de meurtre du comte France. Sa fille aînée, Hélène, connaît le vrai coupable et tente de l'épargner à la dernière minute en accordant ses faveurs au comte Humboldt. Mais il est déjà trop tard. Adèle se lance une terrible malédiction sur le peuple avant de périr sous les flammes devant le regard traumatisé de sa plus jeune fille, Elisabeth. Craignant que le secret d'adultère ne soit dévoilé, le comte Humboldt assassine de sang-froid Hélène. Mais la malédiction prévue trace sa destinée. Une épidémie de peste frappe la population. Apparaît alors Marie, sosie troublant d'Hélène qui séduit Kurt, le fils du comte. C'est donc avec un plaisir immense que nous programmons donc ce film réalisé par un cinéaste qui me tient particulièrement à cœur. Anthony Dawson, alias Antonio Margheriti, le corman italien comme le surnomme ses admirateurs. D'ailleurs, j'ai découvert La Sorcière Sanglante en 2002 au Festival Méditerranée. Margariti était malade. Il n'a pas pu venir d'ailleurs présenter la nuit qui lui était consacrée. Et il devait décéder 2-3 jours après l'hommage mérité qui lui était rendu. Véritable staccanoviste, Margariti a réalisé une cinquantaine de films abordant tous les genres, du western au space opéra, en passant par le polar et le péplum. Il a même, et ça on ne le sait pas parce qu'il n'est pas crédité sur le générique, il a même participé aux effets spéciaux d'un certain 2001, l'Odyssée de l'espace, confectionnant par ailleurs certaines des maquettes. Mais c'est dans le domaine de l'épouvante qu'il réalisa ses meilleurs films. La Sorcière Sanglante, dès ses premiers plans, sublimé par un noir et blanc somptueux, côtoie les sommets filmiques tracés par la Hammer, retrouvant par la même occasion le même goût pour les ornementations gothiques, les ambiances brumeuses et les sombres intrigues inspirées des moments troubles de l'histoire. Cette histoire de sorcellerie, fascinant dosage de drame historique et de pur film d'épouvante, n'arrive pas à trahir ses origines latines, qui suintent dans les moindres recoins de l'image, tant au niveau de la composition du cadre, du jeu fiévreux des comédiens, que des excès mélodramatiques d'un scénario audacieux. Margariti a beau respecter à la lettre un récit à la structure classique, cher à la littérature fantastique, il ne peut s'empêcher de laisser exploser son travail de plasticien, ses délires baroques confinant à l'ensemble une impression de modernité qui laisse même sur le carreau la rigueur esthétique des films de la Hammer.
Adèle Karnstein, l'heure de ton châtiment est arrivée. Au nom du comte Humboldt et de son fils Kurt, nous t'accusons d'avoir provoqué par tes maléfices et avec l'aide de Satan la mort du comte Franz, leur frère et oncle, et le maître de notre bon pays.
Non, non, je suis innocente!
Nous ne sommes pas là pour te juger, mais pour te confier à Dieu et à sa justice suprême.
Non, je suis innocente!
C'est assez! S'il est vrai que tu es innocente, alors n'aie pas peur, Dieu te gardera du feu et te rendra à nous intactes. Mais si tu es coupable, tu brûleras. La justice des hommes commet des erreurs, mais celle de Dieu, jamais!
Margariti assume jusqu'au bout une atmosphère mortifère en filmant une aristocratie en pleine décadence, une omniprésence de la mort, une obsession maladive de la faute. Les personnages sont rongés non par la peste qui frappe le peuple, mais par un destin mort-né dont l'issue sera fatale. Le recours à l'élément fantastique, purement symbolique, n'est pas donné d'emblée. Il permet à Margariti de tisser subtilement un piège se refermant sur le comte Humboldt, victime d'une vengeance diabolique orchestrée par un personnage revenu d'outre-tombe. De la superstition naît le surnaturel. À force de croire aux sorcières, on donne naissance au mythe. La Sorcière Sanglante est vraiment une perle du cinéma d'épouvante gothique, teintée de poésie macabre et d'éléments fantastiques. La force d'ailleurs du cinéma bis italien est de ne pas inscrire ses récits dans une évidence où le fantastique serait présent dès les premières images. Margariti s'intéresse davantage à la manière de raconter son histoire qu'à son histoire proprement dite. La présence d'événements se rattachant au fantastique n'apparaît d'ailleurs qu'en fin de métrage. Ambiguïté, récit équivoque, personnages troubles, esthétique raffinée. C'est un peu l'alchimie de quelques merveilles apparues au cours des années 60, telles que Le Masque du Démon, Le Moulin des Supplices ou L'effroyable secret du docteur Hitchcock. La Sorcière Sanglante est une œuvre méconnue à redécouvrir, magnifiquement filmée par un Margariti en pleine possession de ses moyens. Donc le film est édité par Artus, c'est une petite boîte d'édition qui converge autour de Montpellier. Et en première partie, donc demain, il y aura aussi deux courts-métrages réalisés par Thierry Lopez, donc l'éditeur, Irkania et Maximilian Ultimanox. Donc c'est demain, jeudi à 20h30 au cinéma Utopia.
Voilà, et on peut venir déguisé.
Tout le monde peut venir, déguisé en sorcière, ou si vous voulez, voilà. Ou en bûcher.
Voilà, c'est le principe.
Et il y aura des cadeaux aussi, hein. Il y a, comme d'habitude, on organise un petit quiz. Donc là, je ferai un quiz, je pense, autour du cinéma gothique et de la, peut-être sur la carrière de la sublime Barbara Steele.
Donc on repartira avec des photos dédicacées ou ce genre de choses, de collector, non? Non, pas jusqu'à ce point-là, non, quand même.
Si vous aimez les essuie-glaces et les tranquillisants sur pellicule,
Cinérama,
je suis allergique,
sur Divergence FM.
Ce mois-ci, le cinéma allemand nous envahit totalement. Lui qui nous accordait à peine plus d'un film par an jusqu'à présent, nous fait l'honneur d'occuper nos écrans, puisque pas moins de 3 films allemands, dont je vais vous parler tout de suite, sont sortis la semaine dernière ou vont sortir. Et on commence avec Barbara.
Is he dead?
Ja.
Das ist Frau Dr. Wolf.
Sie arbeitet ab heute hier bei uns in der Kinderchirurgie. Sie kommt aus Berlin, von der Charité. Und hat sich entschlossen, hier bei uns...
Wir haben uns schon vorgestellt. Bald. Übers Wasser? Wann?
Bald. Sehr bald.
Willst du auch da sein?
Ah, je vois qu'on n'aime pas trop la mélodie de la langue allemande par ici.
Si, si,
très bien. Barbara est une femme taciturne, renfermée et peu encline à se faire de nouveaux amis lorsqu'elle est affectée dans un hôpital de l'Allemagne de l'Est, elle qui vivait à Berlin. Malgré son collègue qui lui fait les yeux doux et les jeunes patients qui s'accrochent désespérément à elle, son plan est déjà tout préparé. Avec l'aide de son mari, resté en RFA, elle va s'enfuir en passant par la Norvège. Le film est à l'image de son personnage, froid sans être dénué de charme, dont on pense au prime abord qu'il nous séduira mais qui nous lasse finalement assez vite. Si l'ambiance glaçante et suspicieuse de l'Allemagne de l'Est est rendue avec justesse, cette dureté contextuelle contamine trop le scénario pour ne pas rendre le film ennuyeux. Les dialogues sibyllins et le gros plan répétitif sur les visages renfrognés des personnages finissent par être contre-productifs. Victime de sa longueur conjuguée à une lenteur monotone, Barbara n'est pas sans intérêt mais manque de la vie nécessaire à sa tension dramatique. Le décor de l'intrigue, un hôpital miteux mais dans lequel d'intègres médecins se battent encore, ne sert pas au mieux d'écrin à l'analyse de cette société malade d'elle-même. Déjà suffisamment gavé de séries américaines hospitalières, l'esprit du spectateur peine à se concentrer sur une énième histoire de cœur en blouse blanche. Difficile de croire que les médecins passent ainsi des nuits entières au chevet de leurs malades pour les regarder dormir dans ce Dr House made in RDA. Difficile de s'imaginer que ces médecins sous le régime soviétique se prennent d'affection pour leurs patients comme dans un épisode d'urgence. Et surtout difficile de supporter au cinéma cette tendance Grey's Anatomy qui gangrène déjà bien assez la télévision. Et c'est au Diagonal, j'ai pris un petit peu d'avance, Barbara, donc à partir en fait de la semaine prochaine. On continue avec L'amour et rien d'autre, qui s'intéresse au transfert amoureux. Peut-on aimer quelqu'un parce qu'il nous rappelle quelqu'un d'autre ? Bien plus étrange que romantique, ce premier film de Jeanne Schoenberg joue avec les sentiments du spectateur comme avec ceux de ses personnages et nous perd volontairement dans des incertitudes aux confins du fantastique.
Auf den Herrn Doktor und auf Frau Doktor.
Also in einer Woche komme ich nach und dann wird alles ganz wunderbar werden. Tschüss. Bis sehr bald.
Hallo. Susanna, bist du gut angekommen oder nicht? Oder wie?
Ja, hallo lieber, ich bin's. Mach mir jetzt auch ein bisschen Sorgen. Bitte ruf doch mal sofort an, wenn du das hörst, ja? Ich liebe dich. Tschüss.
Lorsque Martha apprend que son mari s'est suicidé, elle va devoir affronter, en plus de sa douleur, une vérité dont elle ignorait tout. Elle fera son deuil d'une curieuse manière, en retrouvant un homme qui ressemble à son défunt époux et en reprenant avec lui la vie qu'elle avait laissée en stand-by. Même si rien n'est vraiment nouveau, on pense à l'adversaire et à ne le dire à personne, l'amour et rien d'autre sait faire résonner son étrange petite musique aux accords presque hitchcockiens. Le film est visuellement très beau, jouant sur les alternances de couleurs chaudes et de teintes froides, et usant du champ lexical du reflet pour signifier que ce sont finalement les mensonges qui pourraient bien être vrais. On nous dispense même au passage quelques réflexions intéressantes sur l'âme humaine. Ainsi, l'amour est défini comme un sentiment fasciste, car poussant à exterminer tout ce qui est différent chez l'autre, qui nous empêche donc de ne faire qu'un avec lui. Je vous laisse réfléchir sur le sujet. Vous avez 4 heures.
I was sitting in a crummy movie with my hands on my chin.
What the?
The violent Stop. Red occurs seems like we never win. Love and mercy is what you need tonight. So love and mercy to you and your friends.
Encore un film de tumeur au cerveau, décidément très en vogue cette année. Pour lui, qui souffre déjà du symptôme du titre moisi, nous en remet une couche, histoire de bien nous faire comprendre que l'on mourra tous de dégénérescence cellulaire. Le titre initial était par ailleurs beaucoup plus poétique, puisqu'il s'agissait de « Arrêt en pleine voix », mais le distributeur, Sophie Dulac, ne semblait pas de cet avis. C'est également à cette société de distribution que l'on doit « L'amour et rien d'autre » dont je viens de parler, qui s'est vu lui aussi amputé de son titre initialement « Au-dessus de nous, le ciel ». Oui, après les titres de films américains qui incluent forcément le mot sexe lorsqu'ils sont traduits en français, après les films asiatiques dont les titres sont traduits en anglais pour leur sortie en France, voici les films allemands qui sont distribués chez nous avec des titres de téléfilms du dimanche après-midi. Cela fera peut-être l'objet d'une chronique ultérieure. Revenons-en à Pour lui, le scénario, mille fois éprouvé, raconte la lente agonie d'un père de famille qui apprend brutalement l'existence d'une incurable tumeur dans son cortex cérébral. Au lieu de sombrer dans la mélancolie, il décide de vivre ce qui lui reste dans la joie et la bonne humeur. Ses amis et sa famille vont tenter de l'aider, notamment en collant des post-it partout, afin de lui remémorer où il se trouve et ce qu'il doit faire lorsqu'il commence à perdre la mémoire. Difficile avec ce genre de scénario de ne pas prendre en otage le spectateur en lui soutirant des larmes faciles. N'est pas la guerre est déclarée qui veut. Pour lui, c'est parfois rester sur le fil du rasoir entre pathos et bon goût, mais il verse aussi à d'autres moments dans la facilité du drame bien calibré. Si tant est que l'on accepte de se prendre au jeu, Pour lui remplit son cahier des charges, bons acteurs, réalisation efficace et histoire émouvante. Le film a d'ailleurs eu un prix, le prix Un Certain Regard à Cannes. Alors, d'ailleurs, je ne sais pas vous, mais moi j'ai l'impression qu'il y a 100 films qui ont eu ce prix. À chaque fois qu'on voit une affiche, il y a toujours marqué Festival de Cannes. Enfin bon, voilà, donc encore un an après, mieux vaut tard que jamais. Pour lui, c'est sorti depuis une semaine au Diagonale. Et d'ailleurs, j'avais oublié de préciser tout à l'heure que Weekend, dont j'ai parlé en début d'émission, ne passe plus au Diagonale. Par contre, il passera à l'Utopia très prochainement. Voilà.
Bien, merci Marine pour cette collection de films allemands et puis cette douce langue qu'on a pu entendre au travers de ces bandes-annonces.
Cinérama,
je vous demande une seconde le temps d'installer le prochain film.
Alors Twixt, le nouveau film de Francis Ford Coppola. Donc Coppola incarnait avec Spielberg, Lucas, Scorsese et d'ailleurs quelques autres trublions le nouvel Hollywood dans les années 70. C'était un peu le super auteur capable d'investir des sommes faramineuses dans des projets démesurés et personnels tels que la série des Parrains ou Apocalypse Now. Ruiné suite au désastre financier de son pourtant magnifique coup de cœur, la carrière de Coppola se fit plus discrète et globalement décevante, jusqu'à atteindre même le néant avec le pitoyable Jack en 95. En 1997, il interrompt d'ailleurs sa carrière avec « L'idéaliste », adaptation sans relief d'un roman de John Grisham. Tout le monde, ou presque, pensait que Coppola était has-been, laissant sa progéniture, Sofia et Roman, le soin de le remplacer sur le devant de la scène. Et puis miracle, au bout de 10 ans, Coppola revient discrètement avec un modeste film indépendant, le très personnel « L'homme sans mémoire », et ensuite avec « Tétro ». Coppola ne cherche plus aujourd'hui à impressionner les foules, mais retrouve une inspiration perdue avec des petits films en fait, faits de briques et de brocs, imparfaits, impurs, parsemés de fulgurances visuelles et poétiques. Et paradoxalement, en revenant au pur cinéma de genre, Coppola signe avec Twix son œuvre la plus personnelle, intime à ce jour. En fait, il s'agit d'une plongée introspective dans la psyché d'un cinéaste qui n'a jamais été aussi impudique. Que l'on trouve ça complaisant ou touchant, le cinéaste accomplit une auto-analyse d'une sincérité désarmante. Twix débute d'ailleurs sous la double influence des frères Coen et de David Lynch, pour aller ensuite se perdre un peu dans l'esthétique un peu kitsch gothique de Tim Burton. Une voix off nonchalante et ironique introduit une histoire qui s'annonce bizarre sur fond d'images étranges et familières. Coppola filme l'Amérique profonde avec la même distanciation que chez les Coen. Un écrivain loser, interprété par Val Kilmer, sorte de Stephen King du pauvre, débarque dans une bourgade afin de promouvoir son nouveau roman sur la sorcellerie. Sa rencontre avec le shérif local va bousculer sa morne existence. Ce dernier lui propose d'écrire un roman à quatre mains sur d'étranges événements qui se sont déroulés dans cette ville, un lieu de perdition peuplé de fantômes, de sorcières et de vampires. Chaque soir, après avoir liquidé quelques verres de whisky, notre écrivain en panne d'inspiration plonge dans une sorte de coma qui va le transporter dans un univers onirique appartenant au passé et ou à son imaginaire. On y croise donc une jeune vampire diaphane, interprétée par l'incroyable Elle Fanning qu'on avait déjà rencontrée dans Super 8, un prêtre fanatique qui va sacrifier des enfants, le fantôme d'Edgar Allan Poe, un jeune gothique déclamant du Baudelaire dans un français approximatif. Entre rêve et réalité, Twix ou ses oripeaux de songes gothico-policiers dévoilent sa vraie nature. Il s'agit pour Coppola d'un examen de conscience, d'un retour sur son statut d'artiste et sur les événements tragiques qui ont traversé sa vie. Ben, preuve à l'appui, Twix, qui est une sorte de film testament, rend un hommage vibrant à la série B et Z, qui a permis à Coppola de faire d'ailleurs ses armes au départ. Formé chez Corman, il réalise d'ailleurs son premier film en 63, Dementia 13, un vrai thriller gothique, fauché et plein de charme. Et surtout, il revient sur la mort tragique de son fils, transposée là dans Twix sur le cas d'une jeune fille. La séquence elle est troublante et magnifique, d'autant qu'il rejoue à l'identique les circonstances de l'accident. illuminé par quelques moments splendides, notamment il y a une vertigineuse balade à moto qui rappelle beaucoup le Rusty James. Twix n'est pas vraiment un chef-d'œuvre, loin de là. C'est un film malade, une série bien foutraque, parfois pénible et indigeste. C'est parfois d'une beauté visuelle renversante, mais comme Coppola tente tout, ose tout et souvent n'importe quoi, il manque aussi parfois de discernement. Les choix graphiques orientent parfois le film du côté d'une pub pour parfum de très mauvais goût. L'enchevêtrement de la couleur et du noir et blanc, on ne sait pas si c'est justifié ou non, me paraît parfois grotesque. Pas grave, on pardonnera à Coppola ses écarts. Car en ces temps de vache mec, Twix est une bluette gothique, drôle et émouvante, jamais inquiétante en revanche, qui touche davantage le cœur que la tête. Bon, par contre, les fans de Val Kilmer, s'il en reste, je ne sais pas. Non. Ils vont être déçus parce que Val Kilmer ressemble de plus en plus à Steven Seagal. Voilà. Enfin, un dernier mot, que veut dire Twixt ? Parce que je me suis posé la question de savoir que voulait dire. Pas,
déjà, ça me fait penser à la barre chocolatée. Donc
bah oui, moi aussi, mais voilà. En fait, Twixt, c'est l'abréviation de Betwixt, un mot archaïque qui a la même signification que Between, utilisé par nos contemporains, donc anglophones. Twixt signifie donc entre. Et en fait, le titre colle bien au film. C'est un film entre le film d'auteur et le cinéma de genre, entre le sublime et le grotesque, entre la couleur et le noir et blanc.
Noir et blanc, ouais.
Entre le rêve et la réalité, et puis entre une forme de bêtise et d'intelligence. Enfin, c'est curieux. Et je trouve que le titre, finalement, est très, très bien choisi. Voilà. Alors, chef d'œuvre ou nanar, c'est au spectateur
de trancher. Nanar, carrément, ouais. Ah oui. Parce que son tétro, quand même, était quand même beau. Hein.
Mais j'aime beaucoup, moi, les nanars. Hein. Donc...
oui, c'est vrai. Faut se méfier, ouais. Chacun ses valeurs, voilà. Effectivement. Mais voilà, non, en tout cas, son tétro plastiquement était très, oui, très beau. Là, il n'avait pas.
Mais là aussi, c'est finassé. Parfois très, très beau aussi. Hein. Twix, c'est parfois très beau, c'est parfois vraiment magnifique. Et puis, ça bascule dans une imagerie plus publicitaire à des moments ou du sous Tim Burton. En fait, c'est variable.
C'est toujours Cinérama. On approche de la fin.
Cinérama.
Ça ne vous gêne pas si je prends quelques petites notes ?
Et on a un petit agenda aujourd'hui. Alors, on a déjà parlé des rencontres d'Amérique latine, donc qui se déroulent jusqu'au 8 mai, c'est ça ?
Tout à fait.
Voilà. Et il y a l'absurde séance dès demain aussi, dont on a parlé à 20h30 au cinéma Utopia. Mais il y a aussi alors, un film d'Elio Petri et Giorno Contati. C'est ce soir à 20h, mercredi, donc les jours comptés. Tu l'as vu, toi, Manu, ce film ?
Je ne l'ai pas vu, mais Elio Petri est un très, très grand cinéaste. Il faut redécouvrir absolument enquête sur un citoyen au-dessus de tout soupçon.
Et puis, ce même soir, à 20h30 cette fois-ci, à l'Utopia, il y a In Situ, les artistes dans la ville. C'est présenté par Antoine Viviani. C'est dans le cadre de la journée d'études, nouveaux écrans, nouveaux modèles économiques, nouveaux modes d'écriture audiovisuelle. De toute façon, le film porte bien son nom. On suit des artistes qui ont l'habitude d'investir la ville pour faire leur création. Jeudi 26 avril, donc demain à 20h, c'est la Traversée solidaire, réalisée par Dominique Gauthier et Jean Ortiz, donc ça doit être au Diagonal, je ne l'ai pas noté mais je pense que c'est là. Et puis une séance unique le dimanche 29 avril, c'est à Utopia, c'est à 10h30, c'est les petits déj. Vous savez que vous apportez de quoi manger et ils vous offrent café et thé pour voir La République de la Malbouffe de Jacques Goldstein. Là aussi je pense que le titre est suffisamment évocateur pour qu'on n'en dise pas plus. Et puis passe toujours à l'Utopia, 38 témoins, à moi seul, Bellflowers, Bovine, Chronicle, Elena, Hasta la Vista, La Grande Illusion, Les Adieux à la Reine, Les Nouveaux Chiens de Garde, Les Pirates, Querelle, film de Rainer Werner Fassbinder qui ressort, un film gay d'ailleurs, qu'on aurait pu citer, oui, tiens, film gay, oui, effectivement, qui se passe à Brest, entre, voilà, mais cette fois-ci c'est les gays... Voilà, c'est pas les folles. Hein.
On ne voit pas l'image à la radio, Vincent.
Ah oui,
c'est pas
vrai.
La peine de mimer comme ça.
Avec l'acteur de Minette Express, d'ailleurs.
Et oui.
Rap Davis et Franco Nero.
Tout à fait. Moi, je me souviens bien de ce film. On réécoute ton petit montage qu'on a saboté au début de l'émission.
Oui, Marie. Du coup, on va essayer de le remettre parce que là, annoncer juste après le prénom, je pense que les gens n'ont pas vraiment compris. Oui, voilà, non, c'est juste que ça m'a démangé en fait de réagir aux élections de dimanche soir, aux résultats. Donc j'aurais pu faire comme Sarah Forestier dans Le Nom des gens et décider d'aller convertir tous les fachos grâce à mes fesses en France, mais je pense que ça m'aurait vraiment pris trop de temps. Donc je me suis contentée de faire un très très modeste petit montage sonore.
Qu'est-ce que t'as fait ?
Là, on est dans la merde.
premières estimations, premier chiffre pour ce premier tour de l'élection présidentielle 2012.
Marine Le Pen, donc, avec ce score impressionnant de 20%, celui qu'elle espérait, mais que n'avait prédit aucun institut manifestement ces derniers jours.
Le jour le plus sombre pour la Terre.
Comment tu te sens? Bien, si ce n'est que je n'ai jamais eu aussi peur de toute ma vie.
Vous êtes en contact avec d'autres personnes, considérez qu'elles sont infectées.
Houston, on a un problème.
Le peuple devient un hideux personnage qui ne comprend jamais rien, qui grogne.
Arrête de te la péter, arrête de te la péter. Les meufs comme toi, y'en a plein. Si on te casse les dents, t'es moche.
Rien ne sera plus jamais comme avant.
Qu'est-ce que c'est dégueulasse?
C'est l'or. Il est l'or.
Il n'y en a pas pour longtemps. Bien, ouvre tes oreilles.
Sors de ta connerie, sacré bon Dieu! Sinon, moi, je te dévisse la tête et je te chie dans le cou!
Ça doit être une erreur dans l'enchaînement des flashbacks. Ça devrait pas trop durer.
Voilà, c'est ainsi que s'achève Cinérama. On se retrouve la semaine prochaine. On remercie nos invités, Olga et Louis.
Et tout de suite après, vous avez rendez-vous avec 24 notes secondes consacrées cette semaine aux Demoiselles de Rochefort. Merci,
et
à la semaine prochaine.
On remercie Bruno qui a été plus performant que la TAM.
Oui, merci Bruno pour cette mise en onde.
Cinérama.
Il n'y a que des combines, il n'y a pas de héros, rien que des combines. Il n'y a pas de gagneurs, rien que des combines et de la merde. Il n'y a pas de saints, il n'y a pas de génie, rien que des combines et des contes de fées, ça fait durer la partie.
Sur Divergence FM. Divergence.